Ayez en vous. Ayez en vous. Juste ces trois mots-là, ayez en vous, c'est des mots extraordinaires. C'est des mots extraordinaires. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, on n'est que des personnes, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, qui veut faire ta volonté, Seigneur. On amène ta parole, Seigneur, mais c'est ta parole, Seigneur. Seigneur, on te prie ce matin que tu puisses mettre ton onction sur ta parole, Seigneur, afin, Seigneur, de te révéler dans les cœurs, Seigneur, afin de faire une œuvre au milieu de nous, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, et pour ton honneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mercredi, dans notre rencontre, ben oui, on n'avait pas d'électricité, on est allé faire ça l'autre bord, là, c'était bénissant. Ça me rappelait dans le bon vieux temps où on n'avait pas de vidéo puis où on lisait les versets dans la parole de Dieu. Hein? Là, j'ai été obligé d'emprunter la Bible à ma femme parce que celle-là, je suis un peu orgueilleux de la garder, mais elle est écrite assez petit que maintenant, je suis obligé de faire ça. Mais quand même, je m'entête. Priez pour moi. Ce matin, ayez en vous. Ayez en vous. Je pensais à ça cette semaine. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et cette phrase-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. On pourrait travailler toute notre vie sur cette phrase-là, puis on n'aurait pas fini jamais de la travailler. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mercredi, on a parlé de s'abandonner aux pieds de Jésus, que ça pouvait être la solution à tous nos besoins. Parce qu'il est notre espoir, notre repos, notre miséricorde, notre pardon. Mais cette semaine, ce verset-là m'a touché vraiment. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ouf! Hey, c'est toute une commande, ça. Hein? C'est une commande pour toute une vie. Mais là, quel sentiment était en Jésus-Christ? Hein? Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Et là, j'ai commencé à réfléchir à ça, puis je me dis, premièrement, quel sentiment habitait l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit l'Épître aux Éphésiens? Est-ce qu'il y avait en lui les sentiments de Jésus-Christ pour nous écrire d'avoir en nous les sentiments de Jésus-Christ? La première chose, j'ai regardé ça. Premièrement, l'apôtre Paul a écrit l'Épître aux Philippiens lorsqu'il était en prison. Hein, à Rome, il était en prison. Mais il n'était pas dans les prisons romaines, il était assigné à résidence. Mais seulement que quand même assigné à résidence, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il voulait, il était surveillé, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. C'était moins pire que les prisons de l'époque, mais quand même, quel sentiment habitait Paul? Je me suis dit, pourquoi qu'il... S'il peut nous écrire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est que déjà ces sentiments-là étaient dans son cœur, dans son âme. Quel sentiment habitait Paul? Fait que là, les sentiments qui habitaient Paul, c'était premièrement la joie dans l'épreuve. La joie dans l'épreuve. Joyeux d'être dans l'épreuve. Mon Dieu, je ne suis jamais joyeux quand je suis dans l'épreuve, vraiment. Tu sais, une épreuve! Joyeux dans l'épreuve. Un matin, on est embarqué avec Gaëtan et Jeanne d'Arc parce que mon char avait un problème. J'étais un peu moins joyeux que d'habitude. Hein, parce qu'on n'est pas trop habitué à être joyeux dans l'épreuve. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Deuxièmement, Paul, il avait de la reconnaissance pour les Philippiens à cause de toute l'aide qu'il leur avait donnée. L'aide financière, il les avait aidés, etc., etc. Puis aussi, il y avait un sentiment que son emprisonnement allait concourir au bien de Dieu. Fait que dans le fond, je me suis dit, ouais, c'était des sentiments divins, c'était des sentiments de Jésus-Christ qu'il y avait à l'intérieur de Paul lorsqu'il a écrit l'Épître aux Philippiens. Je me suis dit, moi-même, si j'aurais été comme ça, peut-être que j'aurais été découragé parce que je suis en prison. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein? Deuxièmement, l'œuvre est arrêtée. Il aurait pu avoir la peur de l'échec, mais non. Il y avait la joie dans l'épreuve. Il y avait la joie que l'œuvre de Dieu allait concourir au bien parce que le Seigneur avait un plan pour sa vie et pour l'œuvre de Dieu. Amen. Fait que vraiment, revenons à mon verset. Ayez en vous. Tu sais, des fois, ayez en nous, c'est pas juste connaître les sentiments de Jésus-Christ. C'est avoir en nous. C'est quelque chose d'avoir quelque chose en nous. C'est quelque chose de connaître quelque chose. Hein? On peut dire, moi, je connais bien des affaires sur telle chose, mais on ne l'a pas nécessairement en nous. Avoir en nous. Avoir en nous. Moi, ce que j'aurais aimé, là, avec un verset comme ça, parce que dans ma réflexion d'homme, hein, j'aurais aimé qu'il y aurait marqué « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. » Deux points. Puis là, il aurait fait une petite liste. Bien, c'est ça, nous autres, comment qu'on raisonne les hommes, c'est comme ça. Hein? Ça nous prend une liste. Moi, quand Pauline m'envoie à l'épicerie, s'il y a plus que deux articles, je fais « Moi, une liste. » Ça prend une liste. Parce que nous, les hommes, on est bons avec une liste, ça nous aide à comprendre. Sinon, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est vaste. C'est tellement vaste. En parlant d'aider à comprendre, j'ai lu une petite histoire cette semaine. C'était une église comme nous qui voulait poser un beau lustre dans l'église. Fait que là, les diacres ont convoqué une réunion d'affaires. Puis, ils ont expliqué, ils ont dit, le lustre, il coûte tant, puis on va le faire venir, on pourrait le poser, mettons, telle date, etc., etc. Puis, là, il y a eu une discussion dans l'église, il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord, il y en a qui disaient, ça coûte trop cher, il y en a qui disaient, c'est pas le temps. Tout d'un coup, il y a un vieux monsieur qui se lève la main en arrière, il dit, moi, je suis pas d'accord. Puis il dit, j'ai trois raisons. Il dit, premièrement, ça coûte trop cher. Puis deuxièmement, il n'y a personne de nous autres qui joue de ça ici. Puis il dit, troisièmement, nous, ce que ça nous prend, c'est un beau luminaire. Je pense qu'il n'avait pas compris, lui. Il n'avait pas compris. Il n'avait vraiment pas compris. Lorsque je pensais à ce verset-là, je me disais, et que ça aurait été plaisant de faire ça, mettons, un mercredi soir, puis de demander à tout le monde dans l'Église d'emmener une petite liste des sentiments de Jésus-Christ qu'eux autres pensent vraiment, puis que là, le mercredi, on aurait pu discuter de ça, au moins pour une semaine ou deux. Hein? Une semaine ou deux, parce que... Tout le monde aurait eu ses sentiments que lui pensait que c'était les sentiments de Jésus. Hey, ça aurait été toute une discussion. Mais, faute de temps, aujourd'hui, vous allez prendre ma liste. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, il s'attend à ce que les disciples aient les mêmes dispositions d'esprit que leur maître. C'est quelque chose qu'il ait en eux, enraciné en eux. On va regarder cinq petites choses. La première chose, c'est que Jésus avait une dépendance totale envers la volonté de son Père. Hey, c'est quelque chose, ça. Une dépendance totale envers la volonté de son Père. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Hey, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On voit ici qu'il y a un combat entre notre volonté et la volonté de Dieu. Il y aura toujours un combat dans notre vie entre notre volonté et la volonté de Dieu. Même Jésus, au jardin de Gethsémané, dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et dans notre vie, il y aura toujours un combat entre notre volonté et la volonté de Dieu. Un combat. Quelle est notre volonté? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quand je pense vraiment à ma volonté et la volonté de Dieu, je pense souvent aux deux fils. Je pense souvent aux deux fils. La prédication des deux fils dans Matthieu 21, que ça dit « Que vous ensemble? » Jésus disait ça souvent, « Que vous ensemble? » Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Il n'y alla pas. Je pense souvent à ces versets-là. « Lequel des deux a fait la volonté du Père? » Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Il y a tout un contexte à ça. Mais quand même, celui qui dit oui, mais n'y va pas. Celui qui dit non, mais regrette son geste et y va. C'est une question qui nous interpelle chacun de nous. Chacun de nous. Souvent dans ma vie, je pense à ça. Lequel des deux que je suis-je? Est-ce que des fois, à cause des circonstances, à cause de toutes sortes de choses, à cause de la vie, à cause de ce qu'on veut faire personnellement pour nous-mêmes, etc., etc., est-ce qu'on dit non parce qu'on est trop occupé avec nos affaires à nous? Mais finalement, on regrette et on dit « Ok, je vais y aller, Seigneur, faire des choses. » C'est toute une chose. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 31, « Chaque jour, je suis exposé à la mort. » Mon Dieu, je l'atteste, frère, chaque jour, je suis exposé à la mort. Pourquoi il dit ça? Parce que chaque jour, il doit renoncer à faire sa volonté et faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, on ne peut pas dire se lever un matin et dire, « Bon, je vais faire la volonté de Dieu. » Puis après, s'en aller dans nos vies, puis faire notre volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose, c'est à chaque jour, chaque jour, chaque jour. Une décision de chaque jour. Quelqu'un a dit, il faut renoncer à nous-mêmes des fois 50 fois par jour. C'est pas facile de renoncer à nous-mêmes, parce qu'on est tellement habitué de faire ce que ça nous tente, de faire ce qu'on veut, de aller là, de faire ci, de faire ça. Mais de renoncer à nous-mêmes, c'est quelque chose. Le verset dans 16:34, Matthieu, quand ça dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. » Ah, il y a de l'ouvrage là-dedans. Il y a de l'ouvrage là-dedans. Il y a de l'ouvrage de toute une vie. Ayons en nous le sentiment de Jésus qui nous demande de délaisser certaines choses pour faire sa volonté. Mais on ne pourra jamais arriver à faire sa volonté à 100%, mais on peut quand même commencer à délaisser certaines choses pour faire sa volonté. Demandons au Seigneur quelle chose qu'il veut qu'on délaisse afin de faire sa volonté. Le deuxième point, c'était la consécration de Jésus. Luc 2,49, ça dit, je ne l'ai pas écrit celui-là, ça dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Il faut. Et lui, ça le pressait. Paul a dit, « L'amour de Christ me presse. » Son intérêt principal à Jésus, c'était d'accomplir les affaires de son Père. C'était ça sa priorité. Notre priorité, chercher le royaume de Dieu. Dans notre monde d'aujourd'hui, l'homme vit pour lui-même. Ah, ça, on le sait. L'homme vit pour lui-même. Il vit pour la réussite, pour l'aisance, pour la sécurité, pour ses plaisirs, pour essayer d'élever constamment son niveau de vie. C'est notre société d'aujourd'hui. Mais souvent, le chrétien, on se laisse entraîner dans ce courant. Mais on oublie qu'on a aussi une volonté céleste, une vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. c'est de ne pas suivre ce courant de pensée et de marcher dans la volonté de Dieu. Jésus voulait faire les œuvres de celui qui l'a envoyé. Jean 5, 27. Ah, je me suis trompé de verset. On va le passer. Jésus lui répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Hein? Il faut, il agissait. Dans 9.4, ça dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'était les sentiments qui étaient en Jésus. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on prie le Seigneur et dire, « Seigneur, quel service veux-tu que je fasse pour toi? » Et c'est quoi ta volonté pour ma vie? C'est quoi ta volonté à court terme? Ta volonté à plus long terme? C'est quoi ta volonté? La volonté du Seigneur. Chacun de nous, on devrait travailler à demander c'est quoi la volonté de Dieu pour nos vies. Le troisième point que je voulais vous amener, c'était la douceur de Jésus. L'accueil. L'accueil. Quand je lis les évangiles, je suis étonné de l'accueil de Jésus face aux gens. Tout le monde pouvait y parler. Tout le monde pouvait amener son problème. Tout le monde il était ouvert à tout le monde. Tout le monde pouvait arriver et parler à Jésus de n'importe quoi, de n'importe quelle chose. Moi, ça m'a interpellé souvent parce que moi et ma femme, on a été quasiment 20 ans sans parler à notre parenté. Tellement on pensait qu'on était à part. Mais aujourd'hui, j'aime que je peux les accueillir, que je peux avoir une douceur envers eux, puis que je les vois, eux. Je ne vois plus le péché. Avant, je voyais le péché, puis je ne voyais pas eux autres. Mais aujourd'hui, je peux les voir. La douceur de Jésus, Jésus dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Humble de cœur, doux et humble de cœur. Paul a dit, j'aime ce que Paul a dit ici, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Jésus-Christ. » Des fois, on trouve des versets, des fois, que je n'avais jamais remarqué ça. Hein? Paul y exhorte les croyants par la douceur et la bonté de Christ. Puis là, après ça, il va leur dire à faire telle chose, telle chose, telle chose. Je vous exhorte par la douceur et la bonté de Christ. La bienveillance, c'est la même chose. La douceur, ce n'est pas la faiblesse. C'est une force tranquille. Un calme par le Saint-Esprit. Amen. J'aime beaucoup le verset dans Isaïe 42 qui dit, « Vous savez comment... » Ah, on va lire lui avant. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. » Faisant du bien. Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien. Amen. Isaïe 42, ça dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Puis regardez qu'est-ce qu'il dit là. « Il ne criera pas. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé. Et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. » Amen. C'est-tu un bel accueil, ça? Hein? C'est-tu un bel accueil, ça, frère et sœur? Ça, c'est un bel accueil de la part de Jésus. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Il ne brisera pas le roseau cassé. Mais au contraire, il va accueillir. Il va relever. Il va guérir. Il va bénir. Il va faire l'œuvre, et même une œuvre d'accueil, doux et humble de cœur. Amen. Et notre sœur qui a prié ce matin, pour la personne qui s'avançait vers Dieu, bien, c'est cet accueil-là que le Seigneur va faire dans ta vie ce matin. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Il ne soufflera pas sur la mèche qui brûle encore. Il ne brisera pas le roseau cassé. Mais il va accueillir. Il va relever. Il va restaurer. Il va faire un œuvre. Et je pense que c'est à ça que Dieu nous appelle dans chacune de nos vies. Ce sentiment-là, on doit l'avoir dans notre vie. Un sentiment d'accueillir, d'être doux et humble de cœur. Lorsque quelqu'un vient nous voir, c'est de l'accueillir. C'est de vraiment l'étreindre. C'est de vraiment l'amener vers le Seigneur afin que le Seigneur le guérisse, afin que le Seigneur le relève, afin que le Seigneur le restaure. Amen. Doux et humble de cœur. C'est une qualité que chacun de nous, on devrait avoir. De bienveillance, de douceur, de compassion pour les plus faibles qui sont au milieu de nous. C'est ça qui habitait Jésus. Imaginons-nous quel impact aurait une Église qui saisirait ce message et qui deviendrait doux et humble de cœur pour accueillir les gens qui sont autour de nous. Quel impact le Seigneur pourrait faire à travers cela? Quel impact? Quel impact? Seigneur, que ce sentiment de douceur et de bienveillance soit en nous. Soit en nous. Le quatrième point, j'avais marqué la sympathie. Jésus est un homme d'une profonde empathie. D'une profonde empathie. Il comprenait et partageait les sentiments de ceux qui souffrent. C'est quelque chose d'avoir de l'empathie pour les gens qui nous entourent. C'est vraiment une chose. Avoir de l'empathie. Une profonde empathie. Comprendre et partager les sentiments de ceux qui souffrent. Hébreux 4.15, ça dit, « On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Il est capable, le Seigneur, de compatir à chacune de nos faiblesses. Amen. Il est capable de compatir à nos faiblesses. Jean, ça dit, « Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. » Jésus pleura. Nous autres, dans notre société, on dit, « Les hommes, ça pleure pas. » Hein? Les hommes, ça pleure pas. Mais Jésus, ici, voyant sa douleur, Jésus pleura. Jésus avait une profonde empathie. Une profonde empathie pour les gens. Une profonde empathie. Luc 19,4, ça dit, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. » Pleure sur la ville. Pleure sur la ville. Il faudrait que je demande au Seigneur de m'aider à me donner des sentiments d'empathie, que je puisse des fois pleurer pour les gens. Pleurer pour leurs besoins. Est-ce que c'est une prière que... On peut demander en tant qu'enfant de Dieu, mais certainement, certainement, de nous donner son cœur, son empathie pour les gens, afin qu'on puisse compatir, compatir à leurs faiblesses, compatir à ce que Dieu veut qu'on fasse pour eux. Dans le Proverbe 8:31, déjà au début du monde, ça dit, « Jésus jouant sur le globe de sa terre et trouvant son bonheur, parmi les fils de l'homme. » Déjà, Jésus trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. Malgré tous nos défauts, toutes nos affaires et toutes nos choses, Jésus trouve son bonheur parmi nous. Amen? C'est merveilleux d'avoir un Jésus qui, qu'importe nos difficultés, qu'importe nos affaires, et trouve son bonheur parmi les fils de l'homme. Mais c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants. Ayons de la compassion. Avoir de la compassion. Ayons de la compassion. Que ce sentiment de compassion habite au milieu de nous. Amen. Le cinquième point. Jésus était affligé à la vue de l'incrédulité. Il était affligé à la vue de l'incrédulité. Hein? Dans Marc 3,5, ça dit, « Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, et sa main fut guérie. » Lui, il avait la main qui était toute maganée, puis Jésus guérit la main, puis les autres, ils étaient indignés de ce que Jésus fait un miracle le dimanche. Bien, Jésus est indigné qu'eux autres soient choqués parce qu'ils avaient fait un miracle le dimanche. Mais eux autres étaient indignés de voir Jésus faire un miracle. Désobéir à la loi. Désobéir à la loi. Mais Jésus était affligé de l'endurcissement de leur cœur. De l'endurcissement de leur cœur. Et frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre société, il y a un endurcissement dans notre société. Un endurcissement de cœur. Des fois, je pense à ça, puis je me disais, dans les années 60, les gens ont commencé à douter. Douter de Dieu, douter des églises, douter de différentes choses, à cause que ce n'était pas vraiment la parole de Dieu. Après ça, dans les années 70, ils ont dit, « Ah, on va croire, mais sans appartenir. » Ah, moi je suis croyant, mais je n'appartiens pas à rien. Hein, c'était une grosse mode. Une grosse mode. On croit, mais on n'appartient pas à rien. Dans les années 2000, c'est devenu l'indifférence. C'est devenu l'indifférence. Puis aujourd'hui, on veut faire disparaître toute trace de Jésus. On veut faire disparaître toute trace de Jésus. Jésus n'est plus dans les écoles. Il n'est plus dans les églises, il n'est plus à nulle part, Jésus. On veut le faire disparaître. Pourquoi? Mais parce que leur conscience les accuse. Et ils veulent faire disparaître Jésus. Ils veulent faire disparaître. On a une société qui est devenue totalement endurcie. Totalement endurcie. Et ils veulent faire disparaître Jésus. Parce que ça les confronte trop dans leur cœur. Éphésiens 4, 17, 18, ça dit, voici ce que je vous dis, que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie. Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Jésus était affligé de l'endurcissement de leur cœur. Affligé, ça veut dire que ça te fait profondément de la peine. Profondément de la peine de les voir comme ça. Et est-ce que nous, frères et sœurs, ça nous fait de la peine des fois de voir nos enfants, de voir nos familles, de voir nos amis qui sont devenus totalement indifférents, qui sont devenus totalement indifférents au Seigneur, est-ce que ça nous afflige dans notre cœur? Est-ce que ça nous afflige dans notre cœur? Est-ce que ça nous fait quelque chose? Ne soyons pas comme les gens de ce monde qui sont indifférents. Demandons au Seigneur de mettre en nous ce sentiment d'affliction qu'il y avait en Jésus, afin qu'on puisse les porter devant le Seigneur, qu'on puisse les amener devant lui, afin de dire, Seigneur, oui, ils sont endurcis dans leur cœur, mais le seul qui peut faire quelque chose, c'est toi, Seigneur. Le seul qui peut les ramener, c'est toi, Seigneur. Amen. Ces 5 petits points que je voulais vous amener ce matin, ayons en nous les sentiments de Jésus-Christ. Des sentiments d'abandonner notre volonté, de délaisser notre volonté. Des sentiments de servir le Seigneur. Des sentiments d'accueillir les gens au milieu d'eux, d'accueillir les gens, d'accueillir les gens. Comment est-ce qu'on accueille les gens? Comment est-ce qu'on accueille les gens? Après ça, avoir de la sympathie, de la compassion et être affligé à la vue de l'endurcissement, l'incrédulité de notre société. Je crois que ces cinq sentiments-là étaient en Jésus-Christ. Cinq sentiments qui étaient dans la vie de Jésus et cinq sentiments que tout croyant, on devrait avoir dans notre vie. Ayez en vous ces sentiments afin que le Seigneur puisse agir au milieu de nous. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Que tu puisses la faire grandir dans nos vies, Seigneur, afin qu'elle puisse se développer, Seigneur. Qu'elle puisse grandir, Seigneur. Qu'elle puisse faire son œuvre et porter du fruit dans nos vies, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur. Bénis mes frères, qu'ils puissent s'approcher de plus en plus de toi, Seigneur. Qu'on puisse accueillir comme Jésus accueillait, Seigneur. Qu'on puisse avoir de la compassion comme Jésus avait de la compassion, Seigneur. Et qu'on puisse être affligé par notre société au point de vouloir les amener devant toi, afin que tu puisses faire une œuvre dans leur vie, les transformer, les changer pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus. Amen.